Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François suit de très près l'escalade de la violence en Syrie. Il prie pour que soient trouvées des réponses efficaces à la crise humanitaire, ainsi que des espoirs réels de paix et de réconciliation. La France est devenue le 14e pays au monde, le 9e en Europe, à instituer le mariage entre personnes de même sexe. Mais la mobilisation des opposants ne faiblit pas, tandis qu'en Colombie, où les députés doivent se prononcer sur la question, les évêques sont montés au créneau. La reconnaissance légale des unions entre personnes de même sexe, avertit l'épiscopat colombien, renverse l'ordre établi par la nature humaine. Les Arméniens espèrent que le crime dont ils ont été victimes au début du XXe siècle soit reconnu partout malgré le négationnisme turc et les pressions exercées par Ankara. Dans deux ans, le 24 avril 2015, c'est un effroyable centenaire qui sera célébré. En la fête de son saint patron, le souverain pontife a appelé les catholiques à être fidèles à l'Église. L'identité chrétienne, a-t-il dit, n'est pas une carte d'identité. Cela veut dire appartenir à l'Église mère. Les deux évêques orthodoxes enlevés lundi près d'Alep ont été libérés ce mardi à la mi-journée. L'évêque syro-orthodoxe d'Alep et l'évêque grec orthodoxe d'Antioche avaient été enlevés dans un village. Leur voiture avait été interceptée et leur chauffeur, un diacre, tué. Informé de ce nouvel acte gravissime, le Saint-Père s'était recueilli en prière pour que les deux évêques aient la vie sauve et que soient trouvées des solutions efficaces au conflit qui ensanglante la Syrie et à la crise humanitaire de grande ampleur qui en découle. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, les chrétiens, qui constituent environ 5% de la population syrienne, sont particulièrement vulnérables dans le contexte d'anarchie actuelle. Mais y a-t-il une stratégie précise pour marginaliser la communauté chrétienne et frapper ses chefs? Écoutez la réaction de Mgr Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep.
Voilà, il y a comme un contraste aujourd'hui à Alep. Hier, c'était la veille de la Saint-Georges. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Georges. D'habitude, c'est une fête très populaire, dans toutes les familles. On a des personnes qui portent ce prénom. On se fête, on va à l'église Saint-Georges en pèlerinage pour célébrer. C'est vraiment une tradition de grande joie, de grande célébration. Et en contraste, on a cette tristesse d'enlèvement de deux évêques après l'enlèvement de deux prêtres. Vous voyez, ça fait comme une accumulation d'inquiétudes, d'interrogations sur cette dégradation de la sécurité et de la situation de paix en général.
Vous parlez de sécurité, la situation devient toujours plus tragique pour le peuple syrien.
Voilà, c'est ça, toujours plus tragique. Et la preuve, c'est que aussi deux évêques sont enlevés. Et c'est quand même... C'est un peu touché au sacré. Les évêques, c'est quand même des chefs religieux, des chefs de communautés importantes et qui sont enlevés. Alors ça fait beaucoup d'inquiétude dans les communautés chrétiennes.
Un message du pape François a été publié ce matin, message dans lequel il exprime sa sollicitude. Que vous inspire ce message?
Tout d'abord, cela nous réconforte, ça nous donne le sentiment, la conviction que nous ne sommes pas seuls, nous sommes portés par nos frères. Et si le pape fait cet appel, c'est vraiment un signe de sollicitude, d'attention, de proximité. Cela ne peut que nous faire du bien. Mais nous voudrions plus que cela. Nous voulons avoir une lueur d'espérance sur la voie de la paix, de la réconciliation, de cesser le feu. C'est ça que nous désirons.
L'évêque chaldéen d'Alep, interrogé par Manuela Afiji. La guerre en Syrie et l'afflux de réfugiés a un impact particulièrement sévère sur le Liban. Les évêques et les supérieurs des ordres religieux masculins maronites d'Amérique et de France en ont parlé au cours de leur réunion générale ces jours derniers en Argentine. Dans un communiqué, ils appellent de leur vœu une solution pacifique et le retour des réfugiés dans les plus brefs délais. Mais ils ne ménagent pas non plus la classe politique libanaise. Les participants juge sévèrement les difficultés actuelles du Liban dans l'exercice de la démocratie et le fonctionnement des institutions en raison des clivages politiques et sectaires ainsi que des allégeances à des axes régionaux ou internationaux. Le communiqué dénonce par ailleurs la crise sociale et la baisse du niveau de vie, la corruption dans le secteur public, la hausse de la criminalité, des enlèvements et de l'usage des armes. Le 23 avril, l'église fait mémoire de Saint Georges. C'est le saint patron du nouveau pape et pour marquer cette fête, les cardinaux qui résident à Rome ont concélébré l'Eucharistie avec le Saint-Père à 10h ce mardi dans la chapelle Pauline au Vatican. « Je me sens bien avec vous », leur a lancé le pape François avec cette spontanéité chaleureuse teintée d'humour qui a bousculé le style romain. Comme d'habitude, le nouveau pontife s'est inspiré des lectures de la messe pour développer sa réflexion. Il a relevé que c'est au moment des persécutions que l'Église est devenue missionnaire. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
La missionarietà della Chiesa.
Le caractère missionnaire de l'Église, l'Église mère et la joie de l'évangélisateur. Voilà les trois idées que le pape François a développées au cours de son homélie. La mission de l'Église, depuis ses débuts, c'est bien d'avancer et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est donc d'aller vers les hommes. Des hommes à qui cette Église, vue comme une mère, donne une identité. Mais l'identité chrétienne, met en garde le pape, n'est pas une simple carte d'identité. Trouver Jésus hors de l'Église n'est ainsi pas possible, rappelle-t-il. Et de citer Paul VI qui disait que c'est une dichotomie absurde que de vouloir vivre avec Jésus sans l'Église. Car l'identité signifie aussi appartenance, sans que cette appartenance soit nécessairement un sceau. Enfin, le pape est revenu sur la joie du missionnaire. Une joie qui, paradoxalement, commence par une persécution, explique-t-il. L'Église va de l'avant entre les persécutions et les consolations du Seigneur. Or, a prévenu le pape, si nous voulons aller un tant soit peu sur le chemin de la mondanité, en négociant avec le monde comme voulaient le faire les Maccabées, alors nous n'aurons jamais la consolation du Seigneur. Et si nous ne cherchons que la consolation, ce serait une consolation superficielle et non celle du Seigneur.
Le nouveau pontife a plus d'une fois fustigé la mondanité dans le clergé et prévenu que la ligne indiquée par Jésus n'admettait pas de déviation. Après la messe dans la cour Saint-Damase, la fanfare des gardes suisses a offert un bref concert au pape en présence des cardinaux. Ce mercredi, au moins 70 000 personnes sont attendues à l'audience générale, place Saint-Pierre. Parmi elles, une petite délégation des grands-mères de la place de Mai et un conseiller communal de Buenos Aires, fils de disparu sous la dictature militaire. En ce qui concerne le compte Twitter du pape, @pontifex, il a dépassé les 6 millions de followers. En France, la Manif pour tous a maintenu un appel à manifester les 5 et 26 mai. Les rassemblements improvisés vont par ailleurs se poursuivre, tandis que les initiatives pacifiques, à l'instar du mouvement des veilleurs, fleurissent. Les opposants au mariage gay affichent une détermination intacte. Le message est clair, on ne lâche rien, on réfléchit déjà aux suites concrètes à donner à ce mouvement social de protestation. Écoutez Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Il est interrogé par Manuela à Figi.
Nous sommes encore dans la résistance déterminée à cette loi, parce qu'une loi injuste, quand elle est votée, nécessite que nous restions fermement engagés contre elle, et c'est ce que nous dirons le 26 mai en particulier, lors d'une grande manifestation, le jour de la fête des mères, très emblématique, alors même que Madame Bertinotti, qui est ministre des Affaires sociales, de la Famille, a indiqué que, je la cite, l'accouchement ne faisait pas la mère. Alors l'accouchement qui ne fait pas la mère, ça heurte le bon sens, ça heurte l'expérience des personnes, et ça nous montre aussi à quel point, derrière la loi Taubira, il y a un basculement de civilisation qui explique l'émergence de notre mouvement social et qui explique qu'il sera très durable. Et vous m'interrogez sur les suites de ce mouvement. Moi, ce que je vois naître, c'est un vrai réveil de la France, un vrai réveil en tout cas de ceux qui sont soucieux que le plus vulnérable, l'enfant, les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées, restent la priorité des politiques économiques, sociales et comme on dit sociétales, et qu'on ne se mette pas à déployer une culture de toute puissance. C'est important de le dire aujourd'hui parce que la technologie a fait de magnifiques progrès, mais si elle est mal utilisée, elle peut s'exercer de façon totalitaire sur les êtres humains les plus fragiles.
Mais quelle forme, justement? Est-ce que vous privilégiez toujours les manifestations? Il y a d'autres personnes qui se réunissent pour ce qu'on appelle les veilleurs, veiller dans le silence et la prière. Est-ce que c'est ce genre d'action que vous privilégiez encore, ou est-ce que vous voulez passer à un stade supérieur?
Je crois qu'il y a à la fois la nécessité d'être présent dans la rue, c'est très important, d'une manière protestataire, que le mode d'action sur la forme a un peu changé, effectivement, avec l'émergence magnifique du mouvement des veilleurs, qui est entré dans une sorte de grand silence, un grand silence intellectuel nourri par des lectures qui sont notre héritage et qui nous servent aussi pour l'avenir, et puis que tout cela est une traduction concrète, pratique, que, bien sûr, à côté de la résistance, nous soyons un lieu de proposition. Et ce courant d'écologie humaine que je vois naître est un lieu qui va permettre, de façon multidisciplinaire, à des tas de personnes, des experts et aussi des hommes et des femmes de terrain, de promouvoir des changements de comportement et de mentalité au service de l'être humain. Et ça, c'est ce qui va, je pense, naître d'un mouvement social, vous savez, qui génère au fond sa propre force. Notre mouvement social, il est né de la résistance à la loi Taubira, mais déjà, il a grandi énormément derrière les banderoles où nous fraternisons avec des associations, des personnalités que nous n'aurions jamais imaginé rencontrer, avec lesquelles nous n'aurions jamais imaginé travailler. Et désormais, il faudra compter avec cette espérance qui est née, avec aussi le fait que les personnes sont décomplexées. Et pour l'avenir, il faudra compter, je pense, avec la présence, y compris lors des échéances électorales, de ce mouvement pour demander que nos élus fassent de la protection de tout l'homme et de tout homme vraiment la priorité des politiques futures.
Donc le concept de la manif pour tous, qui se voulait au départ un mouvement apolitique, n'exclut pas de se constituer en alternative politique, justement?
Alors je pense que pour ce qui concerne strictement la manif pour tous, il y aura des candidatures symboliques possibles pour manifester notre engagement contre ce projet de loi, là où ce sera nécessaire de le faire pour qu'on soit pris en compte. Mais je vois plus globalement le courant d'écologie humaine comme métapolitique, c'est-à-dire au-dessus de la politique. Et ce que nous appelons de nos voeux, c'est que la réflexion autour de l'écologie humaine, c'est-à-dire de la protection de l'essence même de l'humanité dans son environnement, eh bien, intéresse tous les partis politiques, toutes les entreprises, tous les systèmes éducatifs. Et donc, il y a quelque chose de transversal et qui est à la fois, voyez, complètement assumé sur le plan politique, mais qui n'est pas forcément partisan, hein, qui n'est pas forcément d'un groupe ou d'un autre. C'est un sujet qui va, je pense, englober l'ensemble de la dynamique politique dans nos sociétés postmodernes.
C'était Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. En Colombie, les évêques ont lancé un appel au Parlement pour tenter d'empêcher la légalisation des mariages gays. La discussion d'un projet de loi est en cours au Sénat. La Colombie autorise déjà des pactes d'union civile des personnes de même sexe, mais à la fin de l'année 2011, la Cour constitutionnelle colombienne a exigé des parlementaires qu'ils légifèrent avant 2013 sur la définition du mariage pour décider si les couples de même sexe pouvaient y être inclus, faute de quoi le mariage homosexuel sera reconnu par omission par l'État colombien. Les députés ont jusqu'au 20 juin pour légiférer en la matière. Le secrétaire de la Conférence des évêques a déclaré au cours d'une conférence de presse que l'Église n'avait rien contre les personnes homosexuelles ni contre la reconnaissance de leurs droits, mais on ne peut pas oublier, a affirmé Mgr Fala Robles, le rôle clé joué par le mariage et la famille. À toutes les époques, dans toutes les cultures et religions, le mariage a toujours été une institution constituée par le lien stable entre deux êtres biologiquement distincts et complémentaires, institution orientée vers la procréation et l'éducation des enfants, et en ce sens, le mariage contribue au bien commun de la société. Les représentants d'autres communautés chrétiennes de Colombie se sont associés à la démarche des évêques catholiques. Le secrétaire de la Commission pontificale pour l'Amérique latine l'a confirmé, une importante rencontre interaméricaine se déroulera du 15 au 18 novembre à Mexico. Quelques 120 évêques des Amériques y sont attendus. Objectif, promouvoir une meilleure coordination pastorale au niveau du continent. Cet événement se situe dans le prolongement de l'initiative qui s'était déroulée en décembre 2011 au Vatican pour marquer les commémorations du bicentenaire de l'indépendance des pays latino-américains. Près de la moitié des catholiques du monde entier vivent en Amérique latine. Le catholicisme y est une référence majeure. Le clergé très pastoral y est attentif aux misères du peuple. Mais l'Église est en recul depuis quelques années. Elle subit la concurrence des évangéliques et pentecôtistes, dont l'influence est grandissante, particulièrement au Brésil. Les nouveaux mouvements religieux constituent en effet un défi pour l'Église catholique et pas seulement en Amérique du Sud. L'Afrique n'est pas épargnée. Théodore Hanf, professeur de sciences politiques et sociales à l'Université de Fribourg et à l'Université américaine de Beyrouth, décrypte ce phénomène qui a pris des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo.
Au bout d'un quart de siècle, à Kinshasa, qui était dans le temps la ville la plus catholique de l'Afrique, les membres des églises du réveil ont dépassé en pourcentage les catholiques. Bon, ce n'est pas une appartenance très fixe. Il y a des gens qui viennent au grand meeting des églises du réveil et qui après ça vont quand même se confesser à la cathédrale. Il y a un va-et-vient, mais en tout cas l'attrait de ces églises, aussi au Congo, remarquable. À Kinshasa, mais surtout aussi dans les provinces de l'Est, au Kivu. Et comme ailleurs en Afrique, ce qui distingue ces mouvements, c'est le volontariat, le travail gratuit et l'esprit de sacrifice. Ils payent énormément pour que leurs églises réussissent. Ils commencent avec un petit hangar et puis ils construisent une grande église.
Quelle est la particularité doctrinale de ce mouvement du réveil au Congo ?
Rien de particulier. En effet, un peu partout en Afrique, le profil théologique n'est pas très clair. Il y a des gens qui passent d'une communauté à une autre. Si vous essayez de distinguer ce qui vient du luthéranisme ou ce qui vient du calvinisme, c'est très difficile à constater. En Afrique du Sud, c'est très clair qu'à peu près le tiers avait changé au bout des derniers 10 ans de communauté. Ce n'est pas la particularité d'un profil théologique qui distingue ces églises, mais leur enthousiasme.
Qu'est-ce qui favorise l'émergence de ces mouvements ? Est-ce que c'est une attente de réponse à une crise sociale et économique ou bien une attente de réponse à une crise morale et spirituelle ?
La crise économique joue sans doute un rôle. Mais vous avez aussi des pays qui économiquement vont assez bien et où vous rencontrez de tels mouvements. Je crois que c'est surtout le besoin d'une certaine communauté spirituelle qui n'est pas satisfaite par les églises protestantes ou l'église catholique traditionnelle.
Et face à cela, l'église traditionnelle est passive ou bien elle essaie quand même de trouver des réponses satisfaisantes pour les attentes des populations ?
Au Congo, elle essaie sans doute. Et elle a aussi pas mal de succès. Il y a une certaine pluralité des rites qui se développaient, une certaine pluralité des missions d'après des milieux sociaux, un clergé assez nombreux et assez enthousiaste. Mais il paraît que les besoins des populations en Afrique sont assez diversifiés et que c'est très difficile pour une église bien établie, structurée, comme l'église catholique, de s'adapter très rapidement.
Il y a vraiment cette dimension d'un peu de libre marché du spirituel et du religieux ?
Je crois que oui. Les gens sont à la recherche de ce qui peut donner un sens à leur vie. Et la question est qui a la marchandise à offrir qui plaît le plus ? C'est un phénomène extraordinaire. Pendant des dizaines d'années, les pourcentages des différentes églises étaient fixés. Et depuis 25-30 ans, tout est en mouvement. En Afrique du Sud, par exemple, il y a 25 ans encore, les pentecôtistes étaient 2-3%. Maintenant, ils sont vers les 20%.
Des propos recueillis par Olivier Tosserie. Le passé ne passe pas. Il y a 98 ans, à Istanbul, le 24 avril, démarrait dans un bain de sang le massacre du peuple arménien. 1,5 million d'Arméniens furent exterminés dans l'Empire ottoman, chassés, torturés, violés, humiliés. Des cérémonies religieuses et civiles vont marquer cet anniversaire. Les Arméniens veulent préserver la flamme du souvenir et ne renoncent pas à exiger la justice et la vérité, malgré le négationnisme officiel de la Turquie et la prudence pour motif de raison d'État adopté par de nombreux pays. À Rome, le Conseil pour la communauté arménienne a invité les institutions, associations et médias à ne pas oublier l'horreur de ce crime contre l'humanité, une des pages les plus sombres du XXe siècle, un exemple négatif à ne pas répéter. Ils mettent en garde contre le risque de devenir les complices inconscients du négationnisme. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français.